aujourd'hui, je vais parler de l'Asie de l'Est. Alors, principalement concentré sur trois pays, la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Et bon, Corée du Nord, ça fait partie d'un développement, un élément important, mais on ne va pas concentrer sur la Corée du Sud. Alors, voilà. L'Asie de l'Est, dans la carte, se représente cette région. Alors, c'est une région extrêmement grande. Et dans cette région, on a essayé de créer aussi une sorte de multipolarité, mais ce n'est pas ce que les gens vivent dans cette région qui est habituée. Donc, c'est une chose. Alors, on va essayer de éclaircir ici avec trois sources qui sont principales sur les enjeux sécuritaires de cette région. Alors, dans l'autre carte, on peut voir, ça c'est une carte satellite, aussi figurer ces régions de ces trois pays dedans. On voit un facteur important ou un élément important de lier ces trois pays. C'est quoi? Bon, ce n'est pas le typhon qui est en train de passer, mais c'est l'océan. Donc, pour ces trois pays, les enjeux sécuritaires se trouvent dans la mer, dans les océans. Alors, tant dans la dimension sécuritaire que dans la dimension commerciale, c'est l'océan qui sont le plus important. Alors, non seulement qui va lier trois pays, trois acteurs principaux de cette région, aussi qui va se descendre vers une région qui est encore plus conflictuelle, de la Chine, la mer de la Chine méridionale, et aussi traverse tout le Pacifique jusqu'à l'Amérique du Nord. Donc, c'est l'océan qui va être au centre de mon exposé aujourd'hui. Alors, ce que je veux concentrer, c'est plutôt sur, à partir de ces trois sources, essayer d'aller voir comment on regarde, comment les Asiatiques perçoivent leur environnement sécuritaire. Donc, d'abord, c'est les questions historiques, parce que s'il n'y a pas de questions historiques, on ne peut pas comprendre pourquoi il y a les conflits en train de se passer ou éventuellement va éclater dans ces régions. Et deuxièmement, développement économique, parce que c'est exactement ce facteur qui est accentué ou qui est interlié, soit ces trois acteurs principaux dans cette considération sécuritaire. Et troisièmement, politique internationale, on va essayer de faire venir des influences américaines ou la Russie. Bon, enfin, je vais laisser à M. Lévesque qui parle de ce côté. Ces trois facteurs qui vont être le centre de notre explication. Mais puisque je suis un Taïwanais d'origine chinoise, donc je veux concentrer sur la Chine et à partir de la Chine, toucher la Corée du Sud et le Japon. Alors, dans le côté historique, l'Asie est une région qui est sortie de la colonisation. Mais non seulement la colonisation venue de l'Europe, comme ce qu'on considéré le plus important chose dans les autres mondes, on voit le développement. Mais il y a aussi la colonisation interne, ça veut dire l'Empire japonais, avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça a laissé des traces, qui a créé la forme qu'on a connue déjà pendant la guerre froide, et ça restait jusqu'à aujourd'hui. Alors souvent on dit que voilà, 91, après post-dato, 91, la fin de la guerre froide, mais il y a une chose qui est très ironique ou très spécifique en Asie, c'est la guerre froide n'a jamais fini en Asie. Les régimes communistes sont toujours en place et ont aussi joué un rôle extrêmement important. Donc, est-ce que les Asiatiques perçoivent que la guerre froide est finie? Je m'en doute. Alors, ça, c'est une région. Il y a quelques éléments importants qui marquaient le grand changement de la région. Premier, c'est la guerre de l'opium. Mais la guerre de l'opium, c'est un choc. Au lieu de considérer pour la Chine, c'est plutôt un choc pour le Japon. Alors ça, c'est un facteur déclenchant pour le Japon d'ouvrir la porte, de commencer la restauration de Meiji. Influence pour la Chine, très minime. Mais ça continue très rapidement. Arrive à la première guerre sino-japonaise, de 1894 à 1895, c'est là la première fois que la Chine sentir besoin de se moderniser, se devenir une, de redevenir, récupérer la puissance régionale. Donc ça, c'est aussi différent que ce qu'on imagine ou les Chinois veulent nous faire croire. Alors après, c'est comment ça engager l'autre acteur, la Corée, qui a été annexée par l'Empire japonais pour qu'on puisse avoir un autre accès. Parce que quand on regardait dans la carte, la péninsule coréenne, c'est comme un pont qui reliait le Japon et les continents. Alors, quand le Japon, après la restauration de Meiji, sentir besoin de se développer, de requérir ou d'obtenir la colonie, c'est là le passage obligatoire de passer par ce pont. Alors c'est pour cette raison, 1910, ils ont annexé la Corée entière, il n'y a pas de différence de sud ou nord, et entré à Mandchourie. Alors c'est ici qu'on considérait c'est le moment où ça commence à générer les causes ou éventuels conflits avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la Deuxième Guerre mondiale, ça commence en 1937 en Asie. Donc, c'est ça, la perspective asiatique. Pour nous, la guerre en Europe, c'est notre histoire. Et tout de suite, après cette expansion de l'Empire japonais, on entrait dans la Première Guerre mondiale, ça a facilité encore, une fois de plus, l'expansion japonaise en termes de l'économie dans toute l'Asie de l'Est. Donc, c'est profiter de cette période de guerre en Europe. Et curieusement, en Asie, on appelle la guerre européenne. Parce qu'il n'y a pas effectivement des conflits importants en Asie, mais il y a une expansion continue et très ambitieuse de l'Empire japonais. Donc, profiter de ces 4 ans de la guerre, qu'il n'y a pas d'intervention européenne, le Japon devient le dominant, le pays dominant, acteur dominant dans l'Asie en termes même de l'économie. Donc c'est un processus bien calculé, bien préparé, avec un peu de chance et des avantages que le Japon commence à jouer un rôle dominant, ou ce qu'on dit, est en train de transformer l'Asie de l'Est comme une unipolarité. Donc c'est le Japon qui domine tout. Et à ce moment-là, la Chine est en train de se préoccuper de la guerre civile tout au long de la guerre, la révolution républicaine jusqu'à avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on voit en 37 à 45 la Deuxième Guerre mondiale et aussi la guerre, Deuxième Guerre sino-japonaise. Alors, toute l'histoire d'avant 45 qui ont laissé une trace importante. Premièrement, qui a très bientôt généré une guerre de Corée, que la Corée a été divisée en deux, et la révolution communiste en Chine grâce à l'invasion des Japonais qui ont affaibli très fort la force armée de Chiang Kai-shek. Alors, toutes ces situations qui ont continué de façonner ou de former la situation géopolitique de l'Asie de l'Est pendant la guerre froide. Alors, on va passer rapidement dans la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est la carte qu'on peut voir comment les Japonais ont affecté toutes ces régions de l'Asie de l'Est. Et la guerre de Corée, ça, c'est un point très important qui a déterminé le commencement de la guerre froide. Donc, à partir de cette guerre, la présence américaine est omniprésente, est toujours là. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est un facteur extrêmement important en Asie de l'Est, ça a commencé aussi la restauration de l'économie japonaise et la séparation de deux Corées et la survie de Taïwan et la fermeture de la Chine à l'intérieur. Alors, ce qu'on a utilisé à l'époque pour fermer le communisme chinois, à l'intérieur du continent, c'est ce qu'on appelle deux chaînes d'îles. La première chaîne d'îles, à partir de Tokyo, de Japon, continue jusqu'à Taïwan et Philippines et arrive à Malaisie et Indonésie. Ça, c'est la première chaîne d'îles. Alors, la deuxième chaîne d'îles est un peu plus loin, passée par Guam et arrive à l'Indonésie. Donc, on espère qu'utiliser ces deux chaînes, la force communiste ne sort plus jamais de leur territoire terrestre. Ça, c'est une préparation ou c'est ce qu'on appelle la politique d'endettement. Alors, on va faire vite parce qu'il n'y a pas trop de temps. Alors, on arrive rapidement le changement de situation en Asie de l'Est. C'est encore une fois, ce n'est pas la chute du mur de Berlin, ni l'effondrement de l'Empire soviétique. C'est la réforme et l'ouverture du communisme chinois. En 1979, 10 ans avant la chute du mur de Berlin, la Chine a déjà commencé ce changement. Donc l'Asie de l'Est, si on veut dire que voilà, ça c'est la fin de la guerre froide, c'est 79. La Chine s'ouvre vers l'extérieur, intégrée elle-même dans la chaîne de valeur asiatique, ça a créé la puissance ou la prospérité, si vous voulez, de la Chine aujourd'hui. Alors la Chine devient un acteur prédominant ou important ou innégligeable, c'est à partir de ce moment-là. Alors, ce changement a aussi fragilisé la condition géopolitique de la Chine à partir d'une situation autosuffisante vers une dépendance extrêmement élevée avec l'économie d'extérieur. Donc, ça donne une nécessité de faire quoi ? De entrer dans une autre phase, au lieu d'avoir 2 millions de l'armée populaire de libération terrestre, on va couper les effectifs dans l'armée de terre et concentrer notre ressource sur la marine chinoise. Alors ça, c'est un grand changement parce que la Chine n'est jamais considérée elle-même une puissance maritime, ni pensé qu'ils ont besoin de faire ça. Au contraire, c'est le Japon qui est toujours un pays à avoir une puissance navale extrêmement importante. Alors c'est ici qu'on commence à voir une confrontation entre ces deux géants économique, militaire. Parce que si la Chine reste chez eux avec une grande armée, la force terrestre, le Japon n'aura pas peur. Il n'aura pas besoin d'avoir une préparation ou renforcer leur alliance avec les États-Unis. Donc c'est ici que ça commence à jouer ce rôle, commence à transformer la façon qu'on voit les enjeux sécuritaires. Mais la Chine a besoin de la force navale. Pour quelles raisons ? Principalement pour la défense. Alors, quand on regarde le commerce international qui représente dans le PIB, on peut voir qu'il y a une forte proportion de PIB est contribuée par le commerce international. Alors, vous voyez, la Corée du Sud, qui est le plus haut, parce que c'est un pays qui est principalement compté sur le commerce international. Mais la Chine, presque moitié. Donc c'est très important. Et pour les Chinois, avoir une force navale forte, d'abord et avant tout, c'est pour protéger leur ligne de communication maritime. Ça, c'est le sens principal pour les Chinois. Alors, nous pouvons voir qu'avec certains gardes plus clairs, l'importation ou l'exportation de l'Asie de l'Est, principalement passée par, vous voyez, la mer de Chine méridionale et le détroit de Malacca, passée par l'océan Indien et arrivée dans les endroits où on procure le pétrole. Alors c'est cette ligne-là que les Chinois pensaient que si on ne le protège pas nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire si jamais il y a la guerre ou il y a des menaces des États-Unis. Donc la Chine commence à développer leur force navale, principalement pour cette raison. Mais si on utilisait la théorie ou la carte théorique de la culture stratégique, la Chine n'est jamais un pays qui est complètement ou entièrement défensif, comme ce qu'on imagine. Pour les Chinois, surtout pour les penseurs stratégiques, les doctrines militaires chinoises, c'est toujours la défense active. La défense, ce n'est pas important. L'important, c'est actif. Ça veut dire qu'on considérait important, quelle que soit la circonstance, on peut lancer l'attaque. Alors, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On commence à construire des aéroports sur les îles parce qu'on considérait que ça, c'est un endroit important. Alors, est-ce que ça va provoquer le conflit régional ? Ce n'est pas important. L'important, c'est qu'on doit être actif. Alors, pour pouvoir protéger nous-mêmes, des fois, une attaque préventive, ça devient important aussi. Alors, on n'a pas le temps d'aller jusqu'en Corée et le Japon, mais la Chine commence à jouer un rôle important dans la sécurité régionale, principalement basée sur leurs besoins économiques. Mais le besoin économique n'est jamais quelque chose de bénin, pacifique. Ça pourrait transformer très rapidement une source de conflit. Tout dépend de la façon qu'on perçoit l'importance de ce facteur. Alors, pour terminer, c'est ce région est susceptible de devenir une des régions les plus prospères dans cette prochaine décennie, mais aussi une des sources principales d'un nouveau conflit international. Alors, c'est pour cette raison, nous, les Canadiens, devons faire attention à ces régions. Merci beaucoup. Merci.